Bonjour mes frères et sœurs. Ça va bien ce matin?
Oui.
Gloire à Dieu. Eh bien, nous faisons... On va faire des salutations à quelques personnes, nos amis. Je pense à Bernard ce matin, qui est à Abidjan, et qui souffre, et pour qui on va prier. Vous voulez bien prier avec moi pour lui?
Oui.
Je te prie, Seigneur Jésus, de bénir notre frère Bernard, qui est en souffrance en ce moment. Je te demande, mon Dieu, de soulager ses souffrances et de le bénir au nom de Jésus-Christ, que ce mal s'en aille de son corps et qu'il puisse vivre normalement et que la guérison s'installe en lui. Père, dans le nom de Jésus, je te le remets. Merci Seigneur Jésus, parce que nous avons prié l'Église ensemble pour bénir notre frère Bernard. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Merci aussi de bénir ces instants où nous allons nous pencher sur ta parole pour pouvoir apprendre des choses, apprendre comment mieux nous comporter en cette fin des temps. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Eh bien, ce matin, on va faire une lecture dans le livre de Moïse, au chapitre 6, versets 25 à 34. Moïse 6, 25 à 34. Et Hénoc, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Et il arriva qu'Hénoc voyagea dans le pays parmi le peuple, et tandis qu'il voyageait, l'Esprit de Dieu descendit du ciel et demeura sur lui. Et il entendit une voix du ciel dire, « Hénoc, mon fils, prophétise à ce peuple et dis-lui, repens-toi, car ainsi dit le Seigneur, je suis irrité contre ce peuple et ma colère ardente est allumée contre lui, car son cœur s'est endurci, ses oreilles sont sourdes et ses yeux ne peuvent voir loin. Au cours de ses nombreuses générations, depuis le jour même où je l'ai créé, il a quitté ma route, m'a renié, et ne s'est fié qu'à sa propre sagesse dans les ténèbres. Et dans ses abominations, il a imaginé le meurtre et n'a pas gardé les commandements que j'ai donnés à son père Adam. C'est pourquoi il s'est parjuré et par ses serments, il s'est attiré la mort et je lui ai préparé un enfer s'il ne se repent pas. Et c'est là un décret que j'ai lancé de ma bouche au commencement du monde, dès sa fondation. Et c'est par la bouche de mes serviteurs, tes pères, que je l'ai décrété, tel qu'il sera envoyé dans le monde jusqu'à ses extrémités. Et lorsqu'Hénoc eut entendu ces paroles, il se prosterna par terre devant le Seigneur et parla devant le Seigneur, disant, « Comment se fait-il que j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors que je ne suis qu'un jeune garçon, et que tout le peuple me hait, car je suis lent à m'exprimer? Pourquoi donc suis-je ton serviteur ?» Et le Seigneur dit à Hénoc, « Va !» Va faire ce que je t'ai commandé, et nul ne te transpercera. Ouvre la bouche, elle sera remplie, et je te donnerai de t'exprimer, car toute chair est entre mes mains, et je ferai ce que bon me semble. Dis à ce peuple, choisissez aujourd'hui de servir le Seigneur Dieu qui vous a fait. Voici, mon esprit est sur toi, c'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles. Amen. Depuis le 9 juin 1987, notre communauté, nous connaissons le livre d'Hénoc. Si vous vous souvenez, c'était une prophétie que ma mère avait donnée. Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est une prophétie que ma mère avait donnée et puis le lendemain, nous avons entendu une émission, nous avons vu une émission avec Bernard Pivot à la télévision et c'était... la présentation du livre de la mère morte qui était traduit en français. Alors le surlendemain, je me suis précipité pour aller l'acheter à Paris et c'est là que j'ai découvert le livre d'Hénoc. J'en avais entendu parler, mais sans plus. Et vous savez comment Dieu m'a inspiré pour faire les commentaires du livre d'Hénoc. Et vous avez maintenant ce livre d'Hénoc et mes commentaires sur Révélation Bible sous le titre de Parole cachée. Pourquoi Parole cachée? Parce que Parole cachée, c'est le mot, c'est la signification française du mot apocryphe. Apocryphe, ça ne veut pas dire douteux, ça ne veut pas dire faux, ça veut dire parole cachée. Donc le livre d'Hénoc était un livre qui était tenu caché pendant des millénaires et qui est apparu en cette fin des temps. Ce que nous ne savions pas, c'est que le prophète Joseph Smith, dans les années 1830, par autour, avait reçu une révélation au sujet d'Enoch. Ça, on ne savait pas. Et quand on lit cela, ce qu'il a écrit au sujet d'Enoch, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, eh bien, on y voit la main de Dieu. Enoch, c'était un puissant prophète qui avait écrit un livre, son livre que l'apôtre Jude possédait. Il l'avait en sa possession. À l'époque, mais les gens qui avaient affaire aux religieux connaissaient ce livre, puisque les religieux juifs le tenaient caché, n'est-ce pas? Mais comme il y a eu des religieux juifs qui se sont convertis, comme Paul par exemple, alors ce livre d'Enoch est arrivé chez les disciples de Jésus-Christ, et Jude a donc pu lire, et puis Jésus le cite aussi beaucoup, enfin voilà. Mais nous savons qu'avant d'être un puissant prophète, Enoch estimait n'être qu'un jeune homme lent à s'exprimer. Ça fait penser à d'autres personnes hein, qui ont été choisies par Dieu et qui au départ ne semblaient pas être vraiment aptes à pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Il se sentait haï par le peuple à cause de ça, parce que bon, il avait de la peine à s'exprimer. Alors, écoutez les paroles que le Seigneur lui a données. Ces paroles s'adressent pas seulement à lui, mais aussi à nous qui sommes arrivés à la fin du temps de l'Église dans les nations, parce que nous sommes appelés à servir les autres en tant que détenteurs de la prêtrise. Vous avez trouvé ça dans Apocalypse 5, 10, entre autres. Quand je dis prêtrise, je fais exprès parce que les traducteurs en français ont marqué « Nous sommes un peuple de sacrificateurs » afin d'éviter le mot « prêtrise » de « prêtre ». Parce que le mot « prêtre », dans la culture générale, ça signifie « prêtre catholique ». Et pour éviter cette confusion, ils ont marqué « sacrificateur ». Mais en fait, ça ajoute encore à la confusion parce que les gens ne savent pas ce que c'est nous sommes un peuple de sacrificateurs, on sacrifie quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, nous sommes un peuple de prêtres. Et écoutez ce que le Seigneur vous dit aussi à vous qui êtes aussi prêtre qu'Enoch, aussi prêtre que n'importe quel autre serviteur de Dieu. Il dit, va, fais ce que je t'ai commandé et nul ne te transpercera. Ouvre la bouche, elle sera remplie et je te donnerai de t'exprimer car toute chair est entre mes mains et je ferai ce qui me semble bon. Voilà, Dieu, il fait ce qu'il veut, ce qui lui semble bon, c'est ça qu'il fait. Alors des fois ça peut nous sembler mauvais ce qui nous arrive, mais de toute façon, même les choses mauvaises qui nous arrivent, elles servent à notre bien puisque nous aimons le Seigneur. Amen, c'est vrai, oui ou non? Alors voici mon esprit sur toi, c'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles, c'est pourquoi marche avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire je justifierai tes paroles? Ça veut dire que quand il prophétisera, Dieu sera derrière pour accomplir ce qu'il a prophétisé. C'est aussi un peu comme nous, enfin la même chose pour que nous, et Dieu confirme nos paroles, il justifie nos paroles en faisant des prodiges et des miracles. Et, frères et sœurs, notre ordination à la prêtrise, c'est une invitation du Seigneur Jésus-Christ lui-même à marcher avec lui. À marcher avec lui. Et alors, qu'est-ce que ça signifie, marcher avec lui? Eh bien, ça signifie agir en même temps que lui, faire ce qu'il fait, ça signifie servir comme il veut que nous servions, comme il a servi lui-même. Nous avons un modèle, il sacrifiait son confort pour bénir les nécessiteux, c'est donc ce que nous avons à faire. Il accordait une attention tout à fait particulière aux gens qui étaient négligés par les autres, il accordait donc ce que nous avons à faire nous aussi. Il accordait une attention particulière aux gens que la société évitait, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous avons à faire aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que c'est la prêtrise? Qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, par exemple, Jésus témoignait hardiment, mais avec amour toujours, mais hardiment, la vraie doctrine qu'il recevait de son Père. Et même si cette doctrine était impopulaire, il l'annonçait et c'est ce que nous avons à faire. On n'a pas à chercher à apporter quelque chose qui plaise au monde, mais nous devons apporter ce que Dieu veut que nous apportions. Et si c'est impopulaire, eh bien, ma foi, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On dit ce que Dieu nous dit de dire. Ils disent à tous, Mais Jésus disait à tous, venez à moi, on trouve ça dans Matthieu 11, 28, et nous, ce que nous avons à dire, c'est pas venez à moi, mais c'est venez à lui. Hein? C'est venez à lui. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, nous sommes un peuple de prêtres, et en tant que détenteurs de la prêtrise, nous sommes ses représentants. Nous agissons pas pour nous-mêmes, mais nous agissons pour lui. Et ce sont pas nos mots que nous disons, nos mots dans le M-O-T-S, hein, ce ne sont pas nos mots que nous disons, ce sont les siens. Et les personnes que nous servons en viennent à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ grâce à notre service. Notre service parce que ce que nous disons et ce que nous faisons marque, impressionne ceux qui sont appelés par le Seigneur. Et c'est ainsi que nous donnons un témoignage. C'est pas simplement en parlant, mais c'est aussi en agissant. Vous savez, dès que nous acceptons l'invitation de Jésus-Christ à marcher avec lui, alors la nature de notre service change. Parce que vous avez des gens qui sont très serviables, vous avez des gens qui sont extrêmement serviables, vous avez même des gens qui sont serviles. On en a connu, hein, dans la communauté, c'était plus du service, c'était de la servilité, c'était quelque chose de déséquilibré. Il faut que notre service change, notre façon de servir, il faut qu'elle soit selon le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas servile, il servait les gens, mais il n'était pas là à lécher les bottes de tout le monde. Et voilà, nous devons être dans l'équilibre. Notre service, il doit devenir plus noble. Et on a conscience que c'est quelque chose de saint, nous avons conscience que c'est quelque chose d'élevé, notre service. Même si nous faisons que des petites choses, même si votre chair ou l'ennemi vous dit « Ouais, mais toi, ton service, c'est quoi ? C'est rien. » Si c'est quelque chose, c'est important, parce que si c'est pas toi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir le faire, et c'est comme ça. Donc, tout le monde apporte et fait quelque chose dans le corps de Christ qui a son utilité, et il n'y a rien qui est méprisable quand c'est fait avec amour. Nous arrivons à réaliser des choses que nous ne pensions pas pouvoir faire parce que Jésus est avec nous. C'est-à-dire que si nous sommes fidèles dans notre service dans les petites choses, il nous conduit à faire des choses plus importantes et même des choses qui nous dépassent, qu'on ne pourrait pas faire par nous-mêmes. Mais nous pouvons les faire parce que Jésus est avec nous. Un jour, je parlais avec ma coiffeuse, j'ai demandé témoignage, et puis elle me dit, mais comment vous faites pour rendre la vue à un aveugle? Je dis, mais c'est pas moi qui le fais, simplement je fais ce que Jésus dit de faire. Hein? Jésus nous a envoyés pour prier pour les malades, mettre nos mains sur les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est notre part. Il y en a déjà beaucoup qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur des échecs, mais donc il faut le faire, c'est un service que nous rendons à ceux qui souffrent. Et puis c'est Jésus qui fait, parce que nous marchons avec Jésus, nous ne sommes pas tout seuls dans ce service. Je me rappelle quand frère Osborne a posé ses mains sur moi lors de mon ordination, c'est à Tulsa, Oklahoma, Michou était là, il a dit de la part de Jésus, « Et là où quiconque te recevra, je serai aussi reçu, car j'irai devant ta face, je serai à ta droite et à ta gauche, et mon esprit sera dans ton cœur. » Et mes anges seront tout autour de toi pour te soutenir. Eh bien, mes frères et sœurs, je me suis fié à cette promesse, j'ai cru cette promesse, et je l'ai vue s'accomplir de bien des façons. De bien des façons. Tout au cours de ma vie de prêtre, je m'en suis rendu compte, j'ai vu cela s'accomplir. Vous voyez, je crois que Jésus est avec moi, même si je ne le sens pas toujours. J'ai remarqué que beaucoup de gens se laissent attrister parce qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Moi je ne veux pas dire que ça m'est égal de ne pas sentir, j'aime bien avoir des émotions, mais j'aime mieux rien sentir et être certain qu'il est avec moi et de voir qu'il se manifeste plutôt que de sentir des choses et puis qu'il n'y ait rien qui se passe. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Jésus est avec moi même si je ne le sens pas. Je crois que Jésus a confiance en moi même s'il ne me le dit pas tous les jours. Je n'ai pas besoin que Jésus me dise tous les jours qu'il a confiance en moi. Je le sais, je le crois, je lui fais confiance et je vais de l'avant. Je crois que je peux participer à son œuvre et alors c'est pourquoi je ne me lasse pas de le faire. Un jour, des frères et sœurs m'ont trahi, presque ruiné, me rendant malade jusqu'à la mort. Mais dans mon cœur, je me préparais à leur dire des choses qui allaient leur donner des remords pour la façon qu'ils avaient eu de rompre l'alliance que nous avions faite ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle, c'était à côté de mon bureau un soir. Nous avions fait une alliance, nous avions signé sur un parchemin, je me rappelle toujours, vous vous rappelez tous. Et ils ont rompu cette alliance et je voulais leur dire des choses à ce sujet qui leur donnent du remords pour tout le mal qu'ils avaient fait à la communauté. Et puis, comme je suis, vous savez que j'aime bien faire les photos, j'ai retrouvé, en faisant les cartons ici, quand ça fait presque un an, ça fait un an dans quelques semaines qu'on est là, et on a encore des cartons qui ne sont pas ouverts, et en ouvrant les cartons, j'ai retrouvé une photo de toute la communauté, et en regardant cette photo-là, c'est comme si le Seigneur me disait, je vais te montrer, je vais te les montrer telles que je les vois. Et en un clin d'œil, leur aspect même a changé. J'ai plus vu ces traîtres, ces arrogants, ces insultants, ces voleurs de vision. J'ai vu qu'ils sont des enfants de Dieu qui avaient fait une grosse bêtise sous l'influence de leur propre chair avec l'aide de quelques petits démons. Et j'ai vu que secrètement, dans leur cœur, ils souffraient. J'ai ressenti de l'amour pour eux. Cette vision m'a changé. Elle est en train de me changer. Vous voyez, Jésus est avec nous et il regarde au travers de nous. Il parle au travers de nous. On aime bien dire ça, qu'il parle au travers de nous, mais il regarde au travers de nous. Il veut aussi aimer au travers de nous. Il veut pardonner au travers de nous. Guérir au travers de nous. Nous sommes ses prêtres. Vous ne devez jamais avoir le sentiment d'être trop petit, trop insignifiant ou incapable. Il y a eu un moment où je disais, non, je ne peux pas pardonner ça, ce n'est pas possible. Je disais, bon, ben, je pardonne, mais au fond de mon cœur. Mais quand on marche avec Jésus, Jésus a toute son attention sur vous, et sur le service que vous rendez en son nom. Il a toute son attention. Vous savez, l'œuvre du Seigneur ne consiste pas uniquement à résoudre des problèmes. L'œuvre du Seigneur consiste surtout à édifier des personnes. C'est autre chose. Quand on marche avec Jésus dans le service de la prêtrise, quand on a conscience que cette prêtrise est une chose noble, alors on découvre que parfois, les solutions qui nous semblent les plus efficaces ne sont pas celles que le Seigneur préfère. Parce qu'elles ne permettent pas aux gens de progresser. Voyez par exemple le fait que nous ayons renoncé à vivre au château, ce qui était notre droit le plus légitime, puisque nous possédions 51 parts sur 60, c'était à nous de rester et à eux de partir. Logiquement, légalement, nous pouvions le faire, nous aurions pu. Eh bien non, l'idée venait de Jésus, renoncer. Et cette idée nous permet de progresser. En tout cas, moi, ça m'a permis de progresser. Je crois que pour vous aussi, je vous connais bien. Et ça va sans doute aussi leur permettre à ceux qui nous ont offensés de progresser vers un repentir. Parce que Dieu contrôle toute chose et il fait ce qui lui semble bon. Et pour en arriver à pardonner, nous, nous a fallu du temps. Eh bien, je pense que eux, pour en arriver à se rendre compte du mal qu'ils ont fait, il leur faut aussi du temps. Et je pense que c'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses-là pour qu'on puisse en arriver, non pas simplement à un pardon léger et superficiel, mais à quelque chose de profond. Nous ne sommes pas là sur terre pour être en conflit avec des gens qui se croient supérieurs à nous. Pas du tout. Nous sommes ici-bas afin de réaliser l'immortalité. afin de réaliser la vie éternelle. Quand je dis de réaliser, c'est de rendre réel cette vie éternelle, cette vie de l'éternel, cette vie du style de l'éternel, comment l'éternel vit, comment l'éternel voit, comment l'éternel agit. Dans Moïse, chapitre 1, verset 39, il est dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » C'est la raison, mes frères et sœurs, pour laquelle il nous a donné son autorité, l'autorité de la prêtrise. Dieu a confié son autorité à des mortels imparfaits, comme vous, comme moi, pour nous inviter à prendre part à son œuvre. Vous voyez, notre progression, c'est son œuvre en nous. Et ça peut prendre du temps. Hey, on arrive au mois de juin bientôt. On est bien content de revoir le soleil comme il était au mois de juin quand on est arrivé l'année passée. On ne savait pas trop comment c'était l'hiver ici dans le sud-ouest. On a vu, c'est beaucoup mieux qu'en Normandie. Mais quand même, c'est pas tout à fait le mois de juin-juillet, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et on est content, mais ça a pris une année pour revenir au mois de juin. Ça prend toujours du temps. Tout prend du temps. Tout ici-bas tourne et ben, ça prend du temps. On aimerait bien que ça tourne vite, comme ce machin-là qui est à la mode, je ne sais pas si... Comment, je sais pas comment ça s'appelle, Titi, ce truc-là?
Un spinner.
Un quoi?
Un spinner.
Un spinner. Ça, ça tourne très vite. Mais dans notre vie, ça ne tourne pas aussi vite. Il faut du temps, parce que jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on arrive à assimiler ce que Dieu veut. Par son esprit en nous, Dieu nous enseigne à voir les autres avec ses yeux. Ça signifie qu'il veut que nous les voyons au-delà de leur apparence extérieure, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils font et disent. Si on regarde seulement leur apparence extérieure, ils sont aussi jolis que nous, mais je veux dire, ce qui apparaît, ce qui est apparu, ce qui est sorti d'eux, il faut aller au-delà de cela, au-delà de ce qu'ils ont dit, au-delà de ce qu'ils ont fait. Jésus nous pousse à aller au-delà de l'apparence extérieure. On trouve ça dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, où il est dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » Il ne l'avait pas rejeté en tant que sauvé ou perdu, il l'avait rejeté en tant que roi, il ne voulait pas qu'il soit roi. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, c'est pas que l'Éternel a rejeté ceux qui nous ont offensés, pas du tout. Mais il veut nous apprendre que nous devons regarder non pas à ce qui est apparent chez eux, mais au cœur. Leur cœur, c'est un cœur d'enfant de Dieu qui s'est fait rouler. Nous, des fois, ça nous est pas arrivé de nous faire rouler par l'ennemi, bien sûr. Eh bien, eux aussi, et c'était très grave, mais plus c'est grave, plus le pardon a de la valeur, et plus notre récompense sera grande. Amen. Vous croyez pas, mes frères et sœurs? Moi, je crois. Vous voyez, je suis toujours un peu intéressé. Hein. Je crois ça. Ça fait partie. Le suivre, c'est progresser. Par son esprit en nous, Dieu nous enseigne vraiment à voir avec ses yeux, à aller au-delà de simplement ce qu'on voit avec les nôtres. C'est avec ce regard-là que Jésus a pu voir, par exemple, Simon, non pas comme un pêcheur de poissons impulsif, gueulard, non, mais comme Pierre, un grand apôtre. Toujours impulsif, mais un grand apôtre. C'est comme ça que Jésus a pu voir Zachée, non pas comme un collecteur d'impôts corrompu, mais comme un fils d'Abraham. Et si vous marchez suffisamment longtemps avec Jésus, parce que je vous ai dit, ça prend du temps, eh bien, vous allez apprendre à voir chacun comme une créature de Dieu, quel que soit son passé. Je vous rappelle toujours de ce frère qui voulait faire l'école biblique, et les pasteurs lui ont dit « Non, tu ne peux pas parce que tu as été divorcé deux fois. » Le frère a dit « Oui, mais ça c'était avant que je me convertisse. » Et donc, non, de toute façon, c'est pas possible, parce que c'est... Voyez comment nous ne sommes pas appelés à faire des choses comme ça, à être des religieux. Nous devons apprendre à voir chacun comme une créature de Dieu, quel que soit son passé. Mais son passé de chrétien, son passé d'inconverti aussi. Regardez, voilà, c'est un enfant de Dieu, il s'est fait avoir, j'en ai souffert, mais voilà, qu'est-ce que Jésus veut que je fasse maintenant? Bon, ben, d'abord j'ai pensé à moi, hein, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à... D'abord, j'ai pensé P-E-N-S, à penser P-A-N-S. J'ai pensé à penser vos blessures, à penser les miennes, et Dieu sait si j'en avais, et si c'était douloureux. Et puis à ce moment-là, on va en arriver à avoir la faculté d'aider les gens à percevoir le potentiel divin qui est en eux et à se repentir. Parce que pourquoi les gens ne se repentent pas? Parce qu'ils n'y voyaient aucun intérêt. À partir du moment où on voit qu'il y a un intérêt à se repentir, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a offensé Dieu et que ce fait-là nous met dans une impasse, alors on se repent afin de sortir de cette impasse. Il y a une souffrance d'être dans une impasse, de dire « mais je peux pas progresser, mon potentiel divin ne peut pas se manifester ». Et c'est à nous de commencer. Il ne faut jamais attendre que ce soit les autres qui commencent. C'est toujours à nous de commencer. Vous voyez, souvent, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Ce n'est pas pour rien que cette histoire est écrite dans la Bible. Ce n'est pas juste pour que l'abbé Pierre crée Emmaüs, hein, ce qui est d'ailleurs formidable ce qu'il a fait. Mais je voudrais vous rappeler que pendant que les disciples marchaient sur ce chemin-là pour aller à Emmaüs, marcher ensemble, Jésus s'est approché d'eux, il a fait route avec eux, mais il nous est dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Luc 24, 13, 22, vous lirez ça. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Alors oui, nous sommes ses prêtres, et oui, il marche avec nous, sa lumière est sur notre sentier, ses anges sont autour de nous, mais il se peut que nos yeux ne voit pas tout ça, qu'on ne comprenne pas bien qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'on ne comprenne pas bien quelle est notre prêtrise, le rôle que nous sommes appelés à jouer dans cette prêtrise, comment exercer cette prêtrise. Moi, ça a été un très très grand réconfort d'aller en Afrique cette fois, au bout de 2 ans, empêché par la souffrance, la maladie et tous ces problèmes. Maintenant, je suis retourné avec Lucas et avec Olivier. Ça m'a fait un bien formidable de voir que je pouvais exercer la prêtrise, que rien ne m'avait été enlevé, que tout était là, les dons. Et c'était magnifique. Je crois même que je peux dire que c'était une de mes plus belles missions là-bas en Afrique. Il y a eu des résultats extraordinaires. Mais il se peut que nous soyons par moments voilés et qu'on ne comprenne pas bien. Ma mission, c'est pas simplement d'aller faire des miracles. Ma mission, c'est pas simplement d'aller emmener les gens à Jésus. Ma mission, c'est aussi de pardonner ceux qui nous ont offensés. Alors, c'est quelque chose qui m'a été difficile. C'était long. Mais si nous sommes attentifs à ces moments où notre cœur brûle au-dedans de nous, vous vous rappelez? Quand ils ont reconnu Jésus au moment où il a rompu le pain, ils ont dit, mais oui, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mais tout le long de cette épreuve, tout le long de cette difficulté, on savait bien que Jésus était avec nous et notre cœur brûlait au-dedans de nous. On savait très bien ce qu'il fallait faire, mais c'était... Et on entendait les bonnes paroles de Jésus, on les reconnaissait pour vrai, mais c'était quasiment impossible d'exercer cela dans notre prêtrise. Mais au moment... Quand vraiment on sent que notre cœur brûle, eh bien mes frères et sœurs, comme c'est écrit dans Luc 24, 32, alors si on reconnaît que c'est vraiment le Seigneur qui fait brûler ce cœur, nos yeux peuvent s'ouvrir et nous pouvons reconnaître la main de notre Sauveur dans notre vie et dans notre service. C'est comme le Saint-Esprit. Pierre, il dit aux gens qui sont là le jour de la Pentecôte, repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire, si vous vous repentez et si vous êtes baptisés d'eau, eh bien le Saint-Esprit va venir entrer en vous. Non, il est en train de dire, vous allez pouvoir le recevoir, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'accueillir. C'est à nous d'ouvrir la porte au Saint-Esprit pour qu'il vienne. Il y en a qui se repentent, qui se font baptiser, mais qui ne reçoivent pas. Le Saint-Esprit ne vient pas en eux parce qu'ils ne le reçoivent pas. Alors, nous, c'est la même chose avec ce que le Seigneur nous demande. Il peut nous demander mille manières, des choses, dans notre cœur brûle en dedans de nous, puis d'un coup, un jour, on dit, bon, je reçois cette parole. C'est-à-dire, comme disait Raphaël, la poignée du cœur, elle est à l'extérieur. Jésus ne peut pas ouvrir, c'est à nous d'ouvrir. Pardon, elle est à l'intérieur, la poignée de notre cœur. Elle est à l'intérieur, c'est à nous d'ouvrir pour qu'il puisse entrer. Jésus ne va jamais forcer la porte. Dans Mosias, chapitre 5, verset 13, il est écrit « Comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi ?» et qui est étranger pour lui, est loin des pensées et des intentions de son cœur. C'est pas possible, ou c'est difficile. Il y a un feuilleton, une excellente série qui s'appelle Downton Abbey, je sais pas si vous avez vu, où vous avez, dans la noblesse décadente, de la fin du 19e siècle, vous avez des gens très riches dans un château, puis vous avez dans les cuisines les petits serviteurs, les petites servantes, et les guéguerres qu'il y a entre eux, et toutes ces choses-là, aussi bien dans les nobles que dans les serviteurs. Eh bien, il y a un nouveau qui arrive, mais il ne connaît pas ses maîtres, il ne connaît pas les coutumes, il ne connaît pas. Donc il doit se mettre au courant. Et comment fait-il ? Eh bien, en demandant aux autres, en observant, en demandant même à ses maîtres. Mais ça prend du temps jusqu'à ce qu'il arrive à trouver sa place. Eh bien, nous aussi, comment un homme connaîtrait-il le maître qu'il n'a pas servi ? Il n'est pas étranger pour nous maintenant depuis le temps. Et nos pensées et ses intentions, nous les connaissons maintenant. Ce qu'il faut, c'est les recevoir, dans le sens de les accueillir, de dire « Oui, Seigneur, mon cœur brûle, j'accepte. J'accepte. » Il faut se mettre au service du maître pour bien le connaître. Tant qu'on ne se met pas au service du maître pour bien le connaître, on peut se mettre au service du maître pour aller faire des miracles en Afrique. Ça m'est devenu facile. Mais maintenant, le Seigneur me demande des choses plus difficiles. Et je crois qu'il demande cela aussi à notre communauté. Il faut se mettre au service du maître pour connaître ses pensées, pour connaître ses intentions. C'est dans la pratique, dans la marche avec Jésus que cela vient. C'est pas en restant à ronchonner et à méditer et à se rappeler toujours, ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça, etc., etc. Non. Il faut mettre ça dans le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, marchons avec lui. Reconnaissons comment il marche avec nous. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est vraiment ressuscité et la prêtrise qu'il nous a confiée, c'est pas quelque chose de qui n'a pas de valeur. C'est le pouvoir de parler et d'agir en son nom. Nous n'avons pas à parler et à agir en notre propre nom, avec nos propres désirs, avec nos propres émotions, avec nos propres raisonnements, notre propre sagesse, mais avec sa sagesse, ses mots, ses intentions. C'est ça la prêtrise. Notre Père Céleste nous aime, il exauce nos prières et il envoie son Saint-Esprit pour que nous soyons fortifiés de notre marche dans toutes nos responsabilités de la prêtrise, pour que nous ayons la bénédiction de l'avoir reçu, parce qu'il nous sera beaucoup demandé puisque nous avons beaucoup reçu. Tout cela, c'est vrai. C'est vrai pour chacun d'entre nous, pour moi, pour vous, pour ceux qui écoutez sur Internet. Le Seigneur vous dit toutes ces choses ce matin. Alors, relevez votre tête, haut les cœurs, et marchons avec Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus, merci de vous accompagner et de permettre que nous puissions mettre ces choses en pratique avec un bon cœur, un cœur bien disposé, et d'ouvrir pour nous toutes les portes. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Stéphane, tu vas te mettre au piano, puis on va chanter « Je marche avec Jésus ». Vous vous rappelez ce petit cantique? Je ne sais pas si tu connais les paroles. Non, tu ne connais pas, non. Mais vous le connaissez, on le chantait du temps des gitans. Ça faisait « Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. » Puis après, c'était comment, Rachel? Tu te rappelles pas? Non, mais moi non plus. Comment c'était?
Jésus me précède.
Il m'entoure et me suit. Tous les jours de ma vie. Quelque chose comme ça. Mais c'était ça. Je marche, l'idée, c'est je marche avec Jésus, mais c'est un étroit chemin. Mais tant mieux que c'est étroit, parce que quand c'est étroit, puis qu'on marche à côté de lui, on est vraiment collé. Amen. Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen.